comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Nous allons partir sur la route de la soie ou sur les pas de Marco Polo avec Alfred de Montesquieu qui publie chez Arte Édition, Édition du Chêne. Alors vous comprendrez que bien sûr il y a un livre et qu'il y aura également aussi une série sur Arte. Se mettre sur les pas de Marco Polo, c'est-à-dire partir de Venise et puis direction l'Orient.
Oui, notre idée c'était de retracer la route de la soie, sachant qu'il y en a, il y a plein de variantes de cette route. La nôtre, c'était celle plus ou moins de Marco Polo, celle où on pouvait voir la découverte de l'Orient par un occidental, la première découverte de l'Orient par un occidental, fin du XIIIe siècle. Donc on est parti de Venise, ensuite on est allé à Edirne, qui est une ville aujourd'hui un peu oubliée, qui a été la capitale de l'Empire ottoman, qui est aujourd'hui à la frontière de la Turquie et de la Bulgarie, qui est une très très belle ville avec des mosquées magnifiques, le premier hôpital psychiatrique du Moyen-Âge européen. Ensuite évidemment Istanbul, ensuite on est allé à... on a traversé l'Anatolie, le pays du soleil levant en langue turque, en suivant le Uzum Yol, le long chemin, comme l'appelaient les Turcs, qui est constellé de caravansérails. On est arrivé jusqu'à Ani, qui est l'ancienne capitale des Arméniens, une ville sublime qui aujourd'hui est en Turquie à quelques mètres de la frontière. Et de là, on est allé en Iran. Tabriz, qui était considérée comme la capitale de l'Orient à l'époque, la capitale du monde presque, et qui reste à ce jour... le bazar, le caravansérail, enfin le bazar, oui, le plus extraordinaire que j'ai vu de ma vie. C'est 21 km² de halles couvertes, des milliers de marchands, de nourriture, de tapis, de vêtements, de tout. C'est vraiment un endroit exceptionnel. C'est une chance, on se dit, d'avoir un métier qui vous amène à découvrir des endroits comme ça. D'ailleurs, l'Iran en général, je tiens à le préciser, c'est vraiment pour moi la grande découverte de cette route de la soie. C'est un pays qui s'ouvre au tourisme et qui est une merveille, il faut le dire. Donc de Tabriz, on est allé vers Téhéran. À côté de Téhéran, il y a l'ancien village des rois mages de la Bible, qui en fait étaient des mages zoroastriens. Donc on s'est penché sur le cas du zoroastrisme, cette première religion issue du culte solaire qui devient un culte du feu, un monothéisme. Et de là, on est allé à Ispahan, qui est donc le Versailles de l'Empire perse. Ensuite, on est allé vers le nord, l'Asie centrale, qui est l'épicentre de la route de la soie. C'est des villes mythiques, c'est Boukhara, ensuite Samarcande, Tashkent, qui est très belle aussi. Et ensuite, on est arrivé dans la vallée du Fergana, qui est le seul point de jonction physique possible entre l'univers chinois, donc l'Extrême-Orient, et l'Asie centrale, l'Orient, disons, pour schématiser. Donc c'est là qu'ont eu lieu les grandes batailles entre les Chinois et les Arabes, les Turcs. Et c'est vraiment le point de contact de ces deux civilisations. Une fois qu'on traverse la vallée du Fergana, qui est moitié en Ouzbékistan, moitié au Kyrgyzstan, on arrive dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Culturellement, c'est la zone des Ouïghours, l'ancien Ouïghouristan. C'est un peuple turc, mais qui aujourd'hui est de passeport chinois. Et là, on traverse le Karakorum, une partie du piémont de l'Himalaya. Kashgar, la mythique ville de Kashgar, ce qu'on appelle les oasis interdites, ce que Ella Maillard, l'écrivain, a appelé les oasis interdites. Et puis on traverse les différentes oasis du Taklamakan et du Gobi jusqu'au corridor du Hexi, qui est un autre point de passage obligé des marchands, qui fait 1000 km de long. Et quand on arrive au débouché est du corridor du Hexi, on arrive dans ce qui est historiquement la Chine, proprement dite. C'est les Han. Et là, on a descendu le fleuve jaune, la ville de Lanzhou. Et puis de là, on est arrivé à Xi'an, l'ancienne Chang'an, qui a été la capitale de l'Empire chinois pendant plus de 1000 ans, qui est la ville où il y a la fameuse armée de terre cuite, enfin à côté de laquelle il y a la fameuse armée de terre cuite, et qui était la ville, le point de départ, si on veut, ou le point d'arrivée, en fonction du trajet qu'on a fait, de la route de la soie. Et qui aujourd'hui est une modeste bourgade de 8 millions d'habitants, à l'échelle de la Chine moderne.
Alors ce voyage prend combien de temps, ou a pris combien de temps ?
À l'époque,
avec les moyens modernes aujourd'hui et puis à l'époque, bien sûr.
Ah, c'est une bonne question. Alors, à l'époque de Marco Polo, on pouvait compter facilement 2 ans. Et encore, si tout se passait bien, c'est-à-dire sans maladie, sans guerre qui coupait la route et voilà, sans avoir été pillé par des bandits, etc. Nous, on a mis 9 mois, mais on a fait ça, si vous voulez, par segment. Pour faire une route qui géographiquement fait 12 000 km, j'ai calculé que nous, on a fait 40 000 km. Si on rajoute les avions, les trajets de train, Des heures et des heures de minibus, des heures et des heures de 4x4, un peu de cheval, un peu de diac, un peu de chameau et beaucoup de marche à pied.
Il reste quelque chose finalement de l'âme de Marco Polo sur cette route de la soie?
Oui, il reste l'âme de Marco Polo est toujours là parce que les différents pays qu'il a traversés reconnaissent son importance. Et notamment les Chinois. Les Chinois aiment beaucoup le fait d'avoir une source. Alors, ils ont des chroniques historiques d'une précision hallucinante. Hein. Ils nous ont pas. Enfin, c'est le degré de sophistication de l'Empire chinois, des chroniques impériales chinoises est incroyable. Mais ils trouvent ça très sympa, je pense, d'avoir une autre vision sur leur histoire. Donc, les Chinois sont très très au courant de l'histoire de Marco Polo. Après, ce qui reste surtout, c'est la nostalgie ou l'admiration pour la route de la soie elle-même. Et dans beaucoup de pays. On cherche à glorifier aujourd'hui la route de la soie. Par exemple, les Iraniens, les Ouzbeks, même les Chinois et les Turcs aussi beaucoup, parlent beaucoup de la route de la soie parce que c'est une manière pour eux de dire « Regardez, on était au centre du monde. On était les pays les plus riches, les plus cultivés, les plus avancés technologiquement. » Parce qu'en fait, c'était une autoroute des idées. Cette route commerciale qui transportait de la soie, bien sûr, mais peut-être encore plus des épices, puis d'autres produits, parfois du jade, parfois des parfums, des choses comme ça. En fait, le produit qu'elle a le plus véhiculé, c'est un produit immatériel, c'est les idées, c'est les religions, c'est les concepts, c'est les technologies. On retrouve la technique du Carrez, par exemple, qui est la technique du petit canal d'adduction d'eau iranien, enfin perse. On le retrouve au fin fond de la Chine. De même qu'on le retrouve vers l'ouest, enfin via les Arabes puis les Espagnols, jusqu'aux îles des Canaries, hein, jusqu'au Maroc, et à Oman aussi. Donc un autre exemple, c'est le nestorianisme, cette religion chrétienne aujourd'hui un peu oubliée, qui était une petite secte, qui s'est retrouvée jusqu'au fin fond de la Chine. L'islam, bien sûr, le bouddhisme, on retrouve des choses assez émouvantes, assez... On retrouve des âges, on trouve des vestiges d'une époque révolue où l'Afghanistan était le centre du bouddhisme mondial. On trouve des statues du Bouddha qui physiquement ressemblent plutôt à Apollon ou à Alexandre le Grand. Parce qu'en fait, les premières statues du Bouddha sont faites par des artistes afghans, qui sont les royaumes de Gréco-Bactrian. Et en fait, ils ont la culture de la statuaire hellénique. Donc les premiers Bouddhas ressemblent aux statues d'un Apollon ou d'un Alexandre le Grand. Donc on trouve comme ça des pochettes assez merveilleuses.
Merci de nous faire rêver, Alfred de Montesquieu, la route de la soie sur les pas de Marco Polo. Et puis, même si Marco Polo, on a des doutes s'il est véritablement allé en Chine, du moins certains ont des doutes, ce bouquin est merveilleux, c'est un merveilleux voyage que vous nous proposez.
Alors, là, permettez-moi de m'insurger contre ce propos. Il y a eu une école de sceptiques pour dire que Marco Polo n'était pas allé jusqu'en Chine. Franchement, les gens qui disent ça sont des gens qui soit n'ont pas lu très attentivement son livre, soit ne sont pas allés sur les endroits qu'il décrit. Je peux vous assurer que quand on a son livre en main et qu'on se retrouve dans un bled complètement paumé au fin fond du désert de Gobi, qu'on lit sa description et qu'on a sous les yeux l'endroit qu'il décrit, c'est tellement précis, tellement exact que moi, personnellement, je vous le dis, je n'ai pas un atome de doute qu'il soit allé jusqu'en Chine.
Voilà, ça c'est dit. Alors lisez aussi, relisez le livre des merveilles si vous ne l'avez pas lu encore.
Et donc La route de la soie aux éditions du Chêne et Arte. Et
on parle de l'émission évidemment sur l'émission. Arte.
Donc c'est La route de la soie et autres merveilles. C'est au mois de novembre pendant 3 semaines, chaque après-midi pendant la semaine une demi-heure.
Voilà, on mettra des images en plus que sur ce livre. Merci beaucoup.
Merci.